Chapitre 2. Le Dogan. Première partie. 1. Quand Roland et Eddie pénétrèrent dans l'église Notre-Dame de la Sérénité le lendemain matin, la lumière du jour n'était qu'une vague rumeur à l'horizon, plein nord-est. Les lèvres serrées, Eddie avançait, une scintille à la main, afin d'éclairer leur progression dans l'allée centrale. La chose qu'il venait chercher émettait un bourdonnement sourd. C'était un bourdonnement endormi. Pourtant, il était insupportable aux oreilles d'Eddie. L'église elle-même donnait la chair de poule. Pourtant, vide, elle avait presque l'air trop grande. Eddie s'attendait à voir apparaître des silhouettes fantomatiques, ou peut-être encore quelques morts errants, assises sur les bancs et les regardant avec un air de désapprobation d'outre-tombe. Mais le pire, c'était ce bourdonnement. Juste avant d'atteindre l'hôtel, Roland ouvrit son sac et en sortit le sac de bowling que Jake avait gardé dans son barda jusqu'à la veille. Le pistolero le tint à hauteur du regard pendant quelques instants, et ils purent lire l'inscription imprimée sur le côté. « Rien que des strikes à l'antre de quille. » « À partir de maintenant, plus un mot jusqu'à mon signal, » ordonna Roland. « C'est compris. » Roland appuya le pouce dans l'interstice entre deux des lattes du parquet, et la cache aménagée dans l'alcôve du prêtre s'ouvrit, comme propulsée par un ressort. Le pistolero repoussa le couvercle. Eddie avait vu un film à la télé où quatre types se débarrassaient d'explosifs amorcés pendant le bombardement de Londres. UXB, c'était le titre, et les mouvements de Roland lui rappelaient vivement ce film. Et pourquoi pas d'ailleurs ? S'il ne se trompait pas sur la chose enfouie dans cette cache, et Eddie savait qu'il ne se trompait pas, alors il s'agissait réellement d'une bombe sur le point d'exploser. Roland replia le surplis blanc, et la boîte apparut. Eddie s'arrêta de respirer. Il sentit la peau de tout son corps se couvrir d'un voile glacé. Tout près d'eux, un monstre d'une malveillance inimaginable venait d'entrouvrir un œil endormi. Le bourdonnement reprit son timbre somnolent, et Eddie se remit à respirer. Roland lui tendit le sac de bowling, lui faisant signe de l'ouvrir. Non sans hésitation, il devait réfréner l'envie de murmurer à l'oreille de Roland de tout laisser tomber. Eddie s'exécuta. Roland souleva la boîte hors du trou, et une fois encore le bourdonnement monta d'un cran. Dans le rayonnement vif mais circonscrit de la scintille, Eddie vit la sueur perler au front du pistolero. Il la sentait également sur le sien. Si la 13e noire se réveillait et les expédiait dans les limbes obscures, je n'irai pas. Je me battrai pour rester aux côtés de Susanna. Bien sûr qu'il se battrait. Mais il n'en fut pas moins soulagé quand Roland glissa la boîte en bois fantôme, richement gravée, dans l'étrange sac métallique qu'ils avaient trouvé dans le terrain vague. Le bourdonnement ne se tut pas complètement, mais fut réduit à un ronronnement à peine audible. Et quand Roland tira doucement sur le cordon pour fermer le sac, le ronronnement ne fut plus qu'un murmure lointain. Comme si Eddie avait collé son oreille à un coquillage. Eddie dessina devant lui un signe de croix dans l'air. Avec un léger sourire, Roland fit de même. Dehors, au nord-est, l'horizon s'était considérablement éclairé. Finalement, il ferait bientôt grand jour, semblait-il. Roland. Le pistolero se tourna vers lui, haussant les sourcils. De la main gauche, il tenait fermement le sac. Il voulait visiblement éviter que la boîte tirât de tout son poids sur le cordon du sac si solide qu'il parut. Si nous étions vaadash quand nous avons trouvé ce sac, comment se fait-il qu'on ait pu le ramasser? Roland réfléchit à la question. Peut-être que le sac est vaadash lui aussi, finit-il par répondre. Il l'est toujours? Roland hocha la tête. « Oui, je le crois. »« Oh, ça fiche la trouille. » On aurait changé d'avis au sujet de cette petite virée à New York, Eddie ? Eddie secoua la tête. Il avait peur, cependant. Il n'avait sans doute jamais eu aussi peur depuis qu'il s'était trouvé debout dans l'allée centrale du compartiment de la baronnie à essayer de piéger Blaine. 2. Il était 10 heures passées, et il faisait déjà très chaud lorsqu'ils se retrouvèrent à mi-chemin de la grotte de la porte. « Ça grimpe fort !» avait dit Henschik. C'était toujours le cas. Eddie s'arrêta pour s'essuyer la nuque avec son bandana en contemplant les arroyos serpentant plus au nord. Ça et là, il apercevait des trous noirs et béants, et il demanda à Roland si c'était bien les mines de Grenat. Le pistolero le lui confirma. « Et laquelle tu as en tête pour les gosses ? On la voit d'ici ?» En fait, il se trouve que oui. Roland saisit le seul pistolet qu'il portait et le pointa devant lui. « Regarde par là-bas. » Eddie obéit et aperçut une profonde crevasse qui dessinait un double S déchiqueté. Elle était remplie jusqu'en haut d'ombre veloutée. Eddie estima que le soleil ne devait pas l'éclairer jusqu'au fond plus d'une demi-heure par jour, vers midi. Plus au nord, elle semblait s'achever contre une énorme paroi rocheuse. C'était là que devait se trouver l'entrée, mais il faisait trop sombre pour pouvoir la distinguer. Au sud-est, cet arroyo donnait sur un sentier de terre qui serpentait jusqu'à la route de l'est. Au-delà s'étendaient des champs descendant en pente douce jusqu'au plan de riz déjà plus pâle, mais encore vert. Et derrière les rizières, le fleuve.
« Ça me rappelle cette histoire que tu nous as racontée, » fit Eddie.
« Celle de Veru Canyon. »« Bien sûr. » »« Mais cette fois-ci, pas de tramée pour se charger du sale boulot. »« Non, » acquiesça Roland. « Pas de tramée. »« Dis-moi la vérité. Est-ce que tu vas vraiment coller les gosses de cette ville dans une mine au bout d'un arroyo en cul-de-sac ?»« Non. » Les Falcon pensent que c'est ce que nous avons l'intention de faire. Même les lanceuses de plats le croient. Je le sais bien. C'est ce que je veux.
Pourquoi ?
Parce que je pense qu'il n'y a rien de surnaturel dans la façon dont les loups découvrent toujours les enfants. Depuis que j'ai eu vent de l'histoire du grand-père Jaffords, je ne pense plus non plus que les loups eux-mêmes soient surnaturels. Non. Il y a un rat dans le séchoir à maïs. Quelqu'un qui va vendre la mèche au tout-puissant de tonne foudre.
Une personne différente à chaque fois, tu veux dire? Tous les 23 ou 24 ans?
Oui. Qui ferait ça? Demanda Eddie. Qui pourrait faire ça?
Je n'en suis pas certain, mais j'ai une idée.
Touk? Ce serait une sorte de tradition transmise de père en fils ?
Si tu t'es assez reposé, Eddie, je pense qu'il faudrait qu'on se dépêche.
À Varholzer ? Ou peut-être ce Telford, celui qui ressemble à un cow-boy de série télé ?
Roland passa devant lui sans dire un mot, ses bottillons neufs faisant crisser les cailloux et les éclats rocheux. Le sac pendait de sa main gauche intacte, se balançant d'avant en arrière. À l'intérieur, la chose continuait de chuchoter ses funestes secrets.
Je vois qu'on est toujours aussi bavard. T'as raison. C'est mieux comme ça, fit Eddie.
Et il lui emboîta le pas. 3. La première voix qui s'éleva des profondeurs de la grotte fut celle du grand sage et éminent Junkie.
Oh! Regardez-moi la petite poule mouillée avec ses petites marionnettes.
Gémit Henry. Sa voix rappela à Eddie celle du camarade mort d'Ebenezer Scrooge dans Un chant de Noël, à la fois drôle et effrayante.
Est-ce que la petite poule mouillée croit qu'elle va retourner à New York? C'est bien plus loin que tu vas aller, frérot, si tu tentes le coup. beaucoup. Vaut mieux rester où t'es, à faire tes petites marionnettes sculptées, à faire la gentille petite tapette. »
Le frère mort éclata de rire. Le frère vivant frissonna.
« Eddie !» l'appela Roland. « Écoute ton frère, Eddie !» gémit la voix de sa mère, surgissant du gosier creux et obscur de la grotte. Sur le sol de pierre scintillaient des petits os épars. « Il a donné sa vie pour toi, sa vie entière. Le moins que tu puisses faire, c'est de l'écouter. »
« Eddie, ça va ?»
Puis ce fut au tour de Xaba Drabnik, connu dans la bande d'Eddie sous le nom de ce putain de Hongrois fou. Xaba qui demandait à Eddie de lui donner une cigarette ou bien lui foutre une raclée déculottée.
Eddie eut toutes les peines du monde à détourner son attention de ce charabia effrayant et fascinant à la fois.
« Oui, je crois que ça va. »
Ces voix, elles viennent de ta propre tête. La grotte les trouve et les amplifie, je ne sais pas comment. Elle te les envoie, c'est un tantinet dérangeant, je sais, mais c'est insignifiant.
Pourquoi tu les as laissés me tuer, frérot ? Sanglota Henry. J'ai toujours cru que tu viendrais, mais t'es pas venu.
Insignifiant, répéta Eddie. Ok, j'ai pigé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
À en croire les deux récits que j'ai entendus à propos de cet endroit, celui de Callahan, celui de Henchik, la porte devrait s'ouvrir quand j'ouvrirai la boîte.
Eddie eut un rire nerveux.
Je veux même pas que tu sortes la boîte du sac. Alors on n'est pas dans la merde.
Si t'as changé d'avis.
Eddie secoua la tête.
Non, je veux aller jusqu'au bout.
Il adressa soudain à Roland un grand sourire éclatant.
« T'as quand même pas peur que j'aille choper, dis-moi, que je trouve le type et que je me défonce ?»
Du fond de la grotte, la voix d'Henry exulta.
« C'est de la chinoise blanche, frérot, c'est négro. Il te fourgue ce qui se fait de mieux !»«
Pas du tout, » répondit Roland.
« Il y a beaucoup de choses qui m'inquiètent effectivement, mais te voir retourner à tes vieilles habitudes n'en fait pas partie. »
Bien.
Eddie s'avança un peu plus dans la grotte, les yeux rivés à la porte accrochée à du vide. Mis à part les hiéroglyphes sur le devant et le bouton de cristal gravé d'une rose, elle ressemblait à s'y méprendre à celle de la plage.
Et si on fait le tour ?
Si on fait le tour, la porte disparaît, confirma Roland. Il y a un sacré gouffre derrière, pourtant. « Jusqu'à Nahr, à mon avis. Je ferai très attention à ta place. »
Bon conseil, et Speedy Eddie te dit grand merci.
Il tenta de faire tourner le bouton de cristal et constata qu'il ne bougeait pas d'un pouce. Il s'y attendait. Il recula.
« Il faut que tu penses à New York, à la 2e avenue, plus précisément, et à la date, à l'année 1977. »
Comment fait-on pour penser à une année ?
Pense à ce que tu veux, le jour où Jake et toi vous avez suivi l'ancien Jake, je sais pas moi,
répliqua Roland, dont la voix trahit une pointe d'impatience. Eddie commença par dire que c'était pas le bon jour, que c'était trop tôt, puis se tut. S'il ne s'était pas trompé en ce qui concernait les règles, il ne pouvait pas retourner à ce jour-là, pas à Vahadash, pas en chair et en os non plus. S'il ne s'était pas trompé, le temps de là-bas était relié au temps d'ici, sauf qu'il passait un peu plus vite. S'il ne s'était pas trompé sur les règles, si même il y avait des règles.
Eh bien, pourquoi tu n'irais pas voir toi-même ?
Eddie, tu veux que j'essaie de t'hypnotiser ? Demanda Roland, qui avait tiré une balle de son ceinturon. Je peux te faire visualiser le passé plus clairement.
Non, je pense qu'il vaut mieux que j'y aille sans artifice et bien réveillé.
Eddie ouvrit et referma les mains plusieurs fois, inspirant et expirant profondément en même temps. Son cœur ne battait pas particulièrement vite, il allait même plutôt lentement, mais chacun de ses battements semblait lui ébranler tout le corps comme un coup de gong.
Bon Dieu, tout ça aurait été tellement plus simple s'il suffisait d'appuyer sur quelques boutons, comme dans la machine à remonter le temps du professeur Peabody ou dans ce film sur les Morlocks.
J'ai l'air de quoi ? Demanda-t-il à Roland. Je veux dire, si j'atterris sur la deuxième avenue au beau milieu de la journée, est-ce que je vais attirer l'attention ?
Si tu apparais sous le nez de quelqu'un, il y a des chances, répondit Roland. Je te recommanderais d'ignorer quiconque ne voudrait pas labrer avec toi à ce sujet et de quitter le secteur sur le champ.
Ça, je le sais, je veux dire, de quoi j'ai l'air côté vêtements ?
Roland haussa légèrement les épaules. Je sais pas, Eddie, c'est ta ville, pas la mienne. Eddie aurait pu pinailler. C'était Brooklyn, sa ville. Autrefois, du moins. En général, il ne se rendait même pas à Manhattan une fois par mois et considérait le quartier comme un pays étranger. Pourtant, il croyait comprendre ce que Roland voulait dire. Il fit la revue de détails de sa tenue. Une chemise de flanelle toute simple avec des boutons en corne, un jean bleu marine avec des rivets de nickel et non de cuivre, et une braguette à boutons. Eddie avait vu des fermetures éclair à l'œd, mais plus depuis. Il en déduisit qu'il aurait l'air normal en pleine rue, normal pour New York, du moins. Si on y regardait de plus près, il avait un petit air de garçon de café pseudo-artiste jouant au hippie pendant son jour de congé. Il se disait que la plupart des gens ne s'embêteraient même pas à le regarder tout court, ce qui était pour le mieux. Mais il y avait cependant une chose qu'il pouvait ajouter.
« Est-ce que t'aurais une lanière de cuir ?» demanda-t-il à Roland.
Du fond de la grotte, la voix de M. Tapther, son instituteur de CM2, s'écria avec une intensité lugubre.
« Tu avais du potentiel, tu étais un élève merveilleux, et regarde un peu ce que tu es devenu. Pourquoi tu laissais ton frère te gâcher la vie ?»
Ce à quoi Henry répliqua en sanglotant d'indignation.
« Il m'a laissé mourir, il m'a tué !»
Roland fit glisser son sac de son épaule, le posa sur le sol à l'entrée de la grotte à côté du sac rose, l'ouvrit et fourragea dedans. Eddie n'avait aucune idée du nombre de choses qu'il pouvait contenir. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il n'en avait jamais vu le fond. Le pistolero finit par trouver ce qu'Eddie lui avait demandé et le lui tendit. Tandis qu'Eddie s'attachait les cheveux avec la lanière de cuir, en se disant que ça mettait la touche finale à son look de pseudo-artiste hippie, Roland prit ce qu'il appelait son sac à malice, l'ouvrit et entreprit d'en vider le contenu. Eddie vit apparaître le sachet de tabac donné par Callahan, et moins plein qu'au début, plusieurs pièces de différentes monnaies, un nécessaire de couture, la tasse, dont il s'était servi comme d'une boussole, non loin de la clairière de Chardic, un vieux morceau de carte, ainsi que la nouvelle carte confectionnée par les jumeaux Devery. Lorsque le sac fut vide, il tira de l'étui reposant sur sa hanche gauche le gros revolver avec sa crosse de bois de santal. Il fit tourner le barillet, vérifia les munitions, hocha la tête et remit le barillet en place d'un coup de poignet. Puis il plaça le revolver dans le sac à malice, en resserra les cordons au maximum et les noua en demi-clé qui se dénouerait d'une pichenette. Il tendit le sac à Eddie par sa bandoulière usée. Tout d'abord, Eddie refusa de le prendre.
« Non, mon vieux, il est à toi. »«
Ces dernières semaines, tu l'as porté autant que moi, sans doute plus. »«
Ouais, mais là, on parle de New York, Roland. »« À New York, tout le monde vole. » »«
À toi, on ne volera pas. Prends cette arme. »
Pendant un instant, Eddie plongea ses yeux dans ceux de Roland. Puis il prit le sac à malice et s'en passa la bandoulière sur l'épaule.
« T'as senti quelque chose ?»«
J'ai comme une intuition, oui. »« Le cas est à l'œuvre. »
Roland haussa les épaules.
« Il est toujours à l'œuvre. »« D'accord, » opina Eddie. « Et, Roland, si je ne reviens pas,
prends soin de Suze. »«
Ton boulot, c'est de t'assurer que je n'aurai pas à le faire. »
« Non, » pensa Eddie, « mon boulot, c'est de protéger la rose. » Il se tourna vers la porte.
Il lui restait 1000 questions à poser, mais Roland disait vrai, il n'était plus temps de les poser. Eddie, si vraiment tu ne veux pas...
Si, je le veux.
Il leva la main gauche et dressa le pouce. Quand tu me verras faire ce signe, ouvre la boîte.
Très bien.
La voix de Roland était derrière lui, parce que désormais, il n'y avait plus que lui et la porte. Cette porte, avec le mot « dérobé », inscrit dans quelque langue étrangère, est belle. Autrefois, il avait lu ce roman « Une porte sur l'été » de qui, déjà ? Un de ces types qui écrivait de la science-fiction et dont il traînait toujours les bouquins qu'il empruntait à la bibliothèque. Une de ces valeurs sûres, parfaites pour les longs après-midi d'été. Murray Lesner, Paul Anderson, Gordon Dixon, Isaac Asimov, Harlan Ellison, Robert Heinlein. Il crut se rappeler que c'était Heinlein qui avait écrit « Une porte sur l'été ». Henry le charriait toujours sur les livres qu'il rapportait à la maison. Il l'appelait Tapette, rat de bibliothèque. Il lui demandait s'il arrivait à lire et à se branler en même temps. Il voulait savoir comment il faisait pour rester aussi longtemps assis, le nez collé dans ces conneries d'histoires de putain de fusées et de machines à remonter le temps. Henry, son aîné. Henry, couvert de boutons qui scintillaient toujours sous une pommade ou une autre. Henry, qui se préparait à aller à l'armée. Eddie, le cadet. Eddie, qui empruntait des livres à la bibliothèque et qui les rapportait à la maison. Eddie à 13 ans, presque au même âge que Jake maintenant. On est en 1977. Il a 13 ans. Et sur la 2e avenue, les taxis sont d'un jaune rutilant sous le soleil. Un noir avec un casque de baladeur passe devant Mama Chocho. Eddie le voit. Eddie sait qu'il écoute cette chanson d'Elton John, forcément. Someone saved my life tonight. Le trottoir est bondé. C'est la fin de l'après-midi. Les gens rentrent chez eux après encore une journée passée dans les arroyos d'acier de Cala, New York, où ils font pousser non pas du riz, mais de l'argent. On dit « taux préférentiel de base, s'il vous plaît ». Des femmes à l'air aimable et bizarre, en tailleurs ruineux et baskets, elles ont mis leurs talons hauts dans leur canap parce que la journée de travail est finie et qu'elles rentrent chez elles. Tout le monde a l'air souriant parce que la lumière est tellement éclatante et l'air si doux. C'est l'été dans la ville et on entend quelque part le bruit d'un marteau-piqueur, comme dans cette vieille chanson des Loving Spoonful. Devant lui se tient cette porte qui ouvre sur l'été 1977. Les chauffeurs de taxi se font 1,30 $ à la prise en charge et ensuite 30 cents tous les 300 mètres. Avant c'était moins et après ce sera plus, mais c'est le prix d'aujourd'hui. Cette réalité fugace qui est aujourd'hui. La navette spatiale, avec l'instit à son bord, n'a pas encore explosé. John Lennon est encore vivant, cela dit, pas pour longtemps, s'il n'arrête pas de déconner avec cette vieille héroïne, cette chinoise blanche. Quant à Eddie Dean, Edward Cantor Dean, il ne sait rien de l'héroïne. Son seul vice consiste en quelques cigarettes, ça et de multiples tentatives de vol à la tire, qu'il ne mènera pas à bien avant encore presque un an. Il a 13 ans. On est en 1977. Et il a exactement 4 poils sur la poitrine. Il les compte religieusement chaque matin, en espérant que par miracle, ils seront 5. C'est l'été qui suit la course des grands voiliers. C'est la fin de l'après-midi, en plein mois de juin. Et il entend un air gai. Cet air provient des haut-parleurs situés au-dessus de la porte de Tower of Power, le disquaire. C'est Mungo Jerry qui chante « In the Summertime » et... Soudain, tout lui parut très réel, du moins aussi réel qu'il le fallait pour la circonstance. Eddie leva la main gauche et dressa le pouce. « Allons-y !» Derrière lui, Roland s'était assis et avait sorti la boîte du sac rose. Et quand Eddie lui fit le signal, le pistolero ouvrit la boîte. Les oreilles d'Eddie furent immédiatement assaillies par un carillon délicieusement dissonant. Ses yeux se mirent à pleurer. En face de lui, la porte s'ouvrit dans un clic et la grotte fut soudain illuminée par la lumière éclatante du soleil. Il entendit le bruit des klaxons et le ratatatatata du marteau-piqueur. Peu de temps auparavant, il avait souhaité si ardemment trouver une porte comme celle-là qu'il avait presque tué Roland dans ce but. Et maintenant qu'il l'avait, il était mort de peur. Il avait l'impression que le carillon était en train de lui débiter la tête en morceaux. S'il l'écoutait trop longtemps, il deviendrait fou. « Si tu dois y aller, vas-y !» se dit-il. Il avança d'un pas, voyant à travers ses yeux d'où jaillissaient les larmes, trois mains attrapant quatre boutons de porte. Il tira la porte vers lui et fut aveuglé par les rayons de soleil dorés de la fin d'après-midi. Il sentit les effluves d'essence et l'air chaud de la ville, et aussi un relent de lotion après rasage. Presque aveugle, Eddie franchit le seuil de la porte dérobée, pénétrant dans l'été d'un monde duquel il était maintenant fan gone, l'exilé. 4. C'était bien la deuxième avenue. Il y avait Pimpies, et de derrière lui montait le son guiré de la chanson de Jerry Mango, avec le tempo des Caraïbes. Autour de lui coulait le flot de la foule, au nord de la ville, au sud de la ville, dans toute la ville. Personne ne prêtait attention à Eddie, parce qu'en cette fin de journée, la plupart se concentraient sur le fait de sortir de la ville, et aussi parce qu'à New York, ne pas prêter attention aux gens est un mode de vie. Eddie souleva l'épaule droite pour remettre en place la bandoulière du sac à malice, puis jeta un œil derrière lui. La porte vers Calabrian Sturgis était toujours là. Il voyait Roland assis à l'entrée de la grotte, la boîte ouverte sur ses genoux. « Ce putain de carillon doit le rendre dingue, » pensa Eddie. Et alors qu'il l'observait, il vit le pistolero extraire deux balles de son ceinturon et se les enfoncer dans les oreilles. Eddie eut un large sourire. « Bien joué, mec. » Au moins, ça avait permis d'arrêter les roucoulades de la tramée sur l'I-70. Que ça marche ou pas aujourd'hui, Roland devrait se débrouiller. Eddie avait affaire. Il pivota doucement sur son petit coin de trottoir, puis jeta un dernier coup d'œil par-dessus son épaule pour vérifier que la porte avait tourné en même temps que lui. C'était le cas. Si elle était comme les autres, elle allait maintenant le suivre partout où il irait. Et même dans le cas contraire, Eddie n'y voyait pas d'inconvénient majeur. Il n'avait pas l'intention d'aller très loin. Il remarqua aussi autre chose. Cette impression d'obscurité tapie dans les moindres recoins avait disparu. Parce qu'il était réellement là, et pas Vahadash, supposa-t-il. S'il y avait des morts errants se baladant dans le voisinage, il ne pourrait pas les voir. Rajustant une nouvelle fois la bandoulière du sac à malice sur son épaule, Eddie se mit en route pour le restaurant spirituel de Manhattan. 5. Sur son passage, les gens s'écartaient de lui, mais ce n'était pas suffisant pour lui prouver qu'il était réellement là. Il se passait la même chose quand il était Vahadash. Eddie finit par provoquer une véritable collision avec un jeune homme portant non seulement une mallette, mais deux. Un grand chasseur de cercueils du monde des affaires, s'il en était. « Hey ! Regardez où vous allez !» brailla monsieur l'homme d'affaires quand leurs épaules se cognèrent. « Désolé, mec, désolé, » fit Eddie. Il était bien là, aucun doute. « Dites, vous pourriez me dire quel jour... » Mais monsieur l'homme d'affaires était déjà parti courant derrière l'infarctus qu'il allait sans doute attraper vers l'âge de 45 à 50 ans, à vue de nez. Eddie se rappela la chute de cette vieille blague new-yorkaise. « Excusez-moi, monsieur, pouvez-vous me dire comment aller à la mairie ou bien je peux directement aller me faire foutre ?» Il éclata de rire, impossible de faire autrement. Une fois qu'il eut recouvré ses esprits, il se remit en marche. Au coin de la deuxième et de la 54e, il vit un homme qui regardait des chaussures et des bottes à travers une vitrine. Ce type portait lui aussi un costume, mais il avait l'air beaucoup plus détendu que celui dans lequel Eddie s'était cogné. Et lui ne portait qu'une seule mallette, ce qu'Eddie prit pour un bon présage. « J'implore votre pardon, » fit-il, « mais pourriez-vous me dire quel jour nous sommes ?»« Jeudi, » répondit le type. « 23 juin,
1977 ?
Le type adressa à Eddie un petit sourire, à la fois interrogateur et caustique, et haussa un sourcil.
1977, vous avez tout bon. On sera pas en 1978 avant... Oh, 6 bons mois. Pensez-y.
Eddie hocha la tête.
Grand merci, Sai.
Merci quoi ?
Rien,
répondit Eddie qui reprit son chemin sans tarder. Plus que 3 semaines avant le 15 juillet, plus ou moins. Ça ne laisse pas le temps de prendre ses aises. Certes, mais s'il parvenait à convaincre Calvin Tower de lui vendre le terrain aujourd'hui, toute cette histoire de délai serait réglée. Une fois, il y avait longtemps, le frère d'Eddie s'était vanté auprès de certains de ses amis que son petit frérot serait capable de vendre un frigo à un Esquimau. Eddie espérait qu'il avait conservé un peu de sa force de persuasion. Pour conclure un petit marché avec Calvin Tower, investir dans l'immobilier et puis peut-être prendre une demi-heure pour profiter un peu du rythme de New York. Faire la fête, s'offrir, pourquoi pas, une petite crème au chocolat ou bien... Le cours de ses pensées s'arrêta net et il s'immobilisa si brutalement que quelqu'un lui rentra dedans et poussa un juron. Eddie sentit à peine le choc, entendit à peine le juron. La Lincoln gris anthracite était de nouveau garée là, non pas devant la bouche à incendie cette fois-ci, mais à quelques mètres. La voiture de Balassar. Eddie se remit en route. Il se sentit soudain heureux de s'être laissé convaincre par Roland de prendre le revolver, et que le dit revolver fut dûment chargé. 6. L'ardoise était de nouveau disposée dans la vitrine. La spécialité du jour était un ragoût bouillé de Nathaniel Hawthorne, Henry Thoreau et Robert Frost, avec en dessert le choix entre Mary McCarthy et Grace Metallius. Mais le panneau sur la porte indiquait « Désolé, nous sommes fermés ». À en croire l'horloge digitale plus haut dans la rue, près du disquaire Tower of Power, il était 15h14. Qui fermait boutique à 3h15 en pleine semaine ? Quelqu'un qui recevait un client privilégié, pensa Eddie. Voilà qui. Il mit les mains en œillères et jeta un œil à travers la vitrine du restaurant spirituel de Manhattan. Il vit la petite table ronde avec les livres pour enfants. À droite se situait le comptoir qui avait l'air d'avoir été chippé dans un grand hôtel du début du siècle. Mais aujourd'hui, personne n'était assis derrière, pas même Aaron Dipno. Personne non plus à la caisse. Mais Eddie déchiffrait les mots inscrits sur l'étiquette orange collée sur la vitrine. Pas de remise. Personne. Calvin Tower avait dû être appelé. Peut-être avait-il eu une urgence familiale. Une urgence, c'est sûr, murmura à son oreille la voix froide du pistolero. Elle est arrivée dans cette carriole mécanique grise. Et de plus, regarde le comptoir, Eddie. Mais cette fois, essaie de te servir de tes yeux, au lieu de te contenter de laisser les images défiler devant. Parfois, il lui arrivait d'entendre les voix d'autres personnes. Il se disait que des tas de gens devaient en faire autant. C'était une façon de changer un peu de perspective, de voir les choses sous un autre angle. Mais cette fois-ci, ça ne ressemblait pas à ce genre de petite ruse. Ça ressemblait plutôt à un vieil écho répugnant qui lui parlait dans sa tête. Eddie se concentra de nouveau sur le comptoir. Cette fois, il aperçut les figurines de plastique couchées sur l'échiquier et les tasses de café renversées. Cette fois, il vit les lunettes gisant au sol entre 2 tabourets, un des verres brisés. Il sentit la première pulsation de colère aux confins de son cerveau. Une pulsation sourde, mais en juger parce qu'il avait déjà ressenti ces pulsations gagner vite en vitesse et en puissance. Elle finirait par étouffer toute pensée consciente. Et alors il faudrait prier pour quiconque se trouverait à la portée du pistolet de Roland. Une fois, il avait demandé au pistolet s'il lui arrivait parfois la même chose, et Roland avait répondu « Ça nous arrive à tous. » quand Eddie avait secoué la tête et répliqué qu'il n'était pas comme Roland, ni lui, ni Sous, ni Jake. Le pistolero n'avait rien ajouté. Tower et ses clients privilégiés devaient être à l'arrière, dans le coin qui servait à la fois d'entrepôt et de bureau. Et cette fois-ci, ils n'étaient sans doute pas venus pour discuter. Eddie se doutait qu'il s'agissait plutôt d'un petit stage de remise à niveau, que les messieurs de Balassar étaient venus rappeler à M. Tower que le 15 juillet approchait et suggérer à M. Tower la solution la plus prudente une fois cette date venue. Quand le mot « messieurs » traversa l'esprit d'Eddie, il fit monter une nouvelle pulsation de colère. Quelle idée d'employer ce terme pour désigner des types qui n'avaient aucun scrupule à casser les lunettes d'un petit libraire grassouillet et inoffensif, puis à l'entraîner dans l'arrière-boutique pour le terroriser. Des messieurs. Putain, comment là ? Il essaya d'ouvrir la porte de la librairie, elle était verrouillée. Mais le verrou n'était pas une affaire, la porte branlait dans ses montants comme une dent qui va tomber. Debout sur le pas de la porte, avec l'air d'un type très intéressé par un livre qu'il a aperçu à l'intérieur, enfin, c'est ce qu'il espérait, Eddie poussa plus fort sur la porte, d'abord en appuyant sur la poignée, puis en jouant de l'épaule contre le panneau, le tout en essayant de prendre un air détaché. Il y a 94% de chances que personne ne regarde de toute façon. On est à New York, pas vrai. Vous pourriez me dire comment aller à la mairie, ou je peux directement aller me faire foutre. Il se mit à pousser plus fort. Il était encore loin d'exercer une pression maximale quand il entendit un craquement. La porte s'ouvrit vers l'intérieur. Sans hésiter une seconde, Eddie entra, comme s'il avait tous les droits d'être ici, puis referma la porte derrière lui. Le loquet ne voulait plus fonctionner. Il s'empara d'un exemplaire de « Comment le Grinch a volé Noël » posé sur la table pour enfants, en arracha la dernière page. « J'ai jamais aimé la fin, de toute façon, » se dit-il. La plia trois fois et glissa le morceau de papier sous la porte entre le panneau et le montant. Il valait mieux qu'elle reste fermée. Puis il jeta un œil autour de lui. La pièce était vide et maintenant que le soleil était passé derrière les gratte-ciels du West Side, plongé dans l'ombre. Aucun bruit. « Si !» Il tendit l'oreille et entendit un cri étouffé en provenance de l'arrière-boutique. Vitrine en cours de réfection, se dit-il, et il ressentit une nouvelle pulsation de colère, plus aiguë cette fois. Il desserra le cordon du sac à malice de Roland, puis alla droit vers la porte du fond, celle portant l'inscription réservée au personnel. Pour arriver jusque-là, il dut contourner un tas de livres de poche et un présentoir renversé, le genre de vieux modèle rond qui pivote. Calvin Tower s'y était accroché quand les messieurs de Balassar l'avaient traîné dans l'entrepôt. Eddie n'avait pas assisté à la scène, mais c'était pas nécessaire. La porte du fond n'était pas verrouillée. Eddie sortit le revolver de Roland du sac à malice et mit le sac de côté afin de ne pas l'avoir dans les pattes au moment crucial. Très lentement, il ouvrit la porte, se remémorant en même temps où se trouvait le bureau de Tower. S'il le voyait, il attaquerait en hurlant à plein poumon. Selon Roland, on hurlait toujours à plein poumon quand on était découvert. On pouvait ainsi décontenancer son ennemi pendant une seconde ou deux, et une seconde ou deux pouvait tout faire basculer. Cette fois-ci, il n'eut besoin ni de hurler, ni d'attaquer. Les hommes qu'il cherchait se tenaient dans la partie bureau, leur ombre se projetant une nouvelle fois en forme gigantesque et grotesque sur le mur derrière eux. Tower était assis sur sa chaise, mais elle n'était plus derrière le bureau. On l'avait poussé entre deux des trois armoires de classement. Sans ses lunettes, le visage plaisant de Tower avait l'air nu. Ses deux visiteurs se tenaient face à lui, ce qui veut dire qu'il tournait le dos à Eddie. Tower aurait pu l'apercevoir si Tower n'avait pas les yeux levés vers Jake Andolini et George Biondi, toute son attention concentrée sur eux seuls. À la vue de la terreur absolue qui se lisait sur le visage de cet homme, Eddie sentit une autre pulsation lui vriller le crâne. Il y avait ce relent d'essence dans l'air, si fort qu'il aurait terrorisé le commerçant le plus vaillant, surtout si son bien consistait en un royaume de papier. À côté du plus grand des deux hommes, Andolini, se dressait une bibliothèque vitrée d'environ 1,50 m de haut. La porte en était ouverte. À l'intérieur, les livres étaient disposés sur 4 ou 5 étagères et tous recouverts d'une couverture protectrice transparente. Andolini en avait pris un, et le livre dans les mains, il faisait penser à un vendeur de téléachat. L'homme plus petit, Biondi, tenait quant à lui un récipient en verre rempli d'un liquide ambré. La nature du liquide en question n'était pas un mystère.
« S'il vous plaît, monsieur Andolini, » dit Tower d'une voix humble et bouleversée, « je vous en prie, c'est un livre d'une très grande valeur. »«
Bien sûr, » répliqua Andolini, « tous ceux de cette bibliothèque sont de grande valeur. » Je vois que vous avez un exemplaire dédicacé de l'Ulysse de Joyce qui vaut 26 000 $.
C'est quoi cette histoire, Jack ? Demanda George Biondi, visiblement stupéfait.
Quel genre de livre peut valoir 26 000 $ ?
Je n'en sais rien, répondit Andolini.
Pourquoi vous ne nous l'expliqueriez pas, monsieur Tower ?
Permettez que je vous appelle Cal.
« Mon Ulysse est dans un coffre-fort, » répondit Tower. « Il n'est pas à vendre. »«
Mais cela-ci, n'est-ce pas ? » ?»« Et je vois le chiffre 7 500 inscrit sur la page de garde de celui-ci, au crayon. »« On n'est pas à 26 000, mais ça reste le prix d'une belle voiture neuve. »« Alors, voici ce que je vais faire, Cal. »« Vous m'écoutez ?»
Eddie s'approchait doucement, et bien que veillant à ne pas faire de bruit, il ne faisait aucun effort particulier pour se cacher, et aucun d'eux ne le voyait. Était-il stupide à ce point quand il faisait partie de ce monde ?
Vulnérable à ce point, face à ce qui n'était même pas à proprement parler un guet-apens ? Il fallait croire que oui, et ne s'étonna pas que Roland eût d'abord ressenti du mépris à son égard.
J'écoute.
Vous possédez une chose à laquelle M. Balassard tient autant que vous à votre Ulysse. Et bien que les livres de cette bibliothèque soient à vendre, techniquement parlant, je parierais que vous n'en vendez pas des tas parce que vous ne supportez pas l'idée de vous en séparer. Comme vous ne supportez pas l'idée de vous séparer de ce terrain vague. Alors, voici ce qui va se passer. George va verser un peu d'essence sur ce livre à 7 500. Et moi, je vais y mettre le feu. Et puis je vais prendre un autre livre dans votre petite bibliothèque au trésor. Et puis je vais vous demander que vous vous engagiez verbalement à vendre ce terrain à la Sombra Corporation à midi tapant le 15 juillet. Pigé. Si vous donnez cet engagement verbal, cette réunion prendra fin. Si vous ne me le donnez pas, je vais brûler un deuxième livre, puis un troisième, puis un quatrième, et au bout de 4, monsieur, quelque chose me dit que mon associé ici présent pourrait bien perdre patience. Putain, t'es cuit, résuma George Biondi. Eddie était à présent presque assez près pour toucher Gros Blair, et il ne le voyait toujours pas. Quand on en sera arrivé là, je pense qu'on versera tout simplement l'essence dans cette petite bibliothèque et qu'on mettra le feu à tous vos beaux lits.
Le mouvement finit par accrocher l'œil de Jake Andolini. Il regarda par-dessus l'épaule gauche de son partenaire et vit un jeune homme aux yeux noisettes et au teint bronzé qui le regardait. Il tenait à la main ce qui ressemblait au plus vieux et au plus gros revolver bidon de tous les temps. C'était forcément un revolver bidon.
« Putain, ben vous êtes qui ?
Avant même qu'il ait pu finir sa phrase, le visage d'Eddie s'illumina de joie et de bonne humeur, et avec cette expression, il n'était plus seulement beau, il était superbe.
George !
S'écria-t-il avec le ton de quelqu'un qui retrouve un de ses amis très chers après des années d'absence.
George Bionley ! Mon vieux, t'as toujours le plus gros tarin de ce côté de l'Hudson, quel plaisir de te revoir, vieux !
Il y a chez l'homme ce vieux réflexe animal qui conditionne ses réactions quand un inconnu l'appelle par son nom. Quand l'apostrophe est affectueuse, on est quasiment contraint de répondre dans le même registre. Malgré l'incongruité de la situation, c'est avec sur le visage un début de sourire que George Grobler Biondi se retourna vers la voix qu'il avait interpellée avec une familiarité si enjouée. Eddie ne lui laissa pas le temps de découvrir les dents et le frappa violemment avec la crosse de son pistolet. Andolini avait la vue perçante, pourtant il ne distingua qu'un mouvement flou, tandis que la crosse s'abattait trois fois, la première fois entre les yeux de Biondi, la deuxième au-dessus de l'arcade droite et la troisième dans le creux de sa tempe droite. Les deux premiers coups firent un bruit mat et creux. Le claquement mou du troisième avait de quoi soulever le cœur. Biondi s'effondra comme un sac à patates, les yeux virant au blanc, les lèvres en avant, comme un bébé qui essaie désespérément de téter. Sa main se relâcha et le pot d'essence bascula, heurta le sol en ciment et vola en éclats. L'odeur d'essence fut soudain beaucoup plus forte, lourde et écœurante. Eddie ne laissa pas au partenaire de Biondi le temps de réagir, alors que Grobler convulsait par terre au milieu d'une flaque d'essence jonchée de bris de verre, Eddie se rua sur Andolini, le forçant à reculer.